Le grand rendez-vous de l'immobilier, une émission présentée par Capital et Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand rendez-vous de l'immobilier. Le numéro du mois de mai, voilà, c'est le Muguet, vous êtes heureux, il fait beau. Dans certaines régions, c'est un peu moins le cas, mais en tout cas, on profite de tous ces ponts du mois de mai. On est ravis d'être avec vous. C'est l'heure aussi de se remettre sur le parcours résidentiel pour ceux qui veulent avoir un projet immobilier. On est ravis d'être avec vous. C'est le 59e numéro exactement. Et je voulais faire une petite intervention juste pour l'ouverture de ce 59e numéro pour vous annoncer que notre ami Guillaume Chazoulière est allé vers d'autres projets éditoriaux toujours, puisqu'il demeure toujours journaliste. Donc il ne fait plus partie de la rédaction de Capital. On lui souhaite de très très belles aventures, à la fois radiophoniques, écrites et en presse, bien évidemment. Plus de quatre années partagées avec lui, avec toujours beaucoup, beaucoup de plaisir. Le grand rendez-vous de l'immobilier se fait toujours, bien évidemment, avec nos partenaires de Capital et Radio Immo. Et nous reviendrons vous voir, les amis, aussi avec les journalistes de Capital. Pour ce numéro, justement, je suis accompagné de celui, vous savez, qui anime le Club des Proprios avec Ça vous concerne. C'est l'ami Vincent. Vincent, oui. Favreau. Comment ça va, Vincent?
Ça va très bien. Bonjour.
Voilà. On va la co-animer ensemble, cette émission.
Ben avec plaisir.
Et notre invité, notre grand témoin du jour. On a souhaité, les amis, pour ce mois de mai, vous faire rencontrer un grand patron de l'immobilier pour les projets résidentiels que vous avez, mais aussi pour répondre aux principales interrogations, et Dieu sait qu'il y en a, autour de l'immobilier. Il est avec nous sur ce plateau pour parler de ce métier, c'est Xavier Bellevaux. Bonjour Xavier Bellevaux.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes le directeur général de We Invest France. On vous expliquera qui est We Invest France, puisque je rappelle que vous êtes filiale d'un leader immobilier qui est installé en Belgique, et vous nous donnerez d'ailleurs votre point de vue sur le paysage de l'immobilier en France. Merci de nous être fidèles, les amis, puisqu'au bout de 4 ans, si vous n'étiez pas là, tout simplement, nous n'existerions plus. Le grand rendez-vous de l'immobilier, 59e numéro, c'est parti.
Le grand témoin.
Merci d'être avec nous, voilà, pour cette première partie avec notre grand témoin, Xavier Bellevaux. Merci encore une fois d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de We Invest France, un nouveau réseau dans l'Hexagone qu'on connaît bien en Belgique, puisque vous êtes l'un des leaders. Et c'est là-bas que, parmi les 3 plus gros réseaux, vous faites partie numéro 1 avec un concept un peu particulier. Et vous êtes en train de vous développer d'un peu plus d'un an en France.
Exactement, oui c'est ça, enfin, à peu près 8 mois, on ouvre très exactement mi-juin par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'on le dit souvent, parce qu'en France on peut imaginer que le marché est un peu morose depuis quelques temps, même si depuis le printemps, et on en parlera, ça va un peu mieux. Parallèlement à ça, il y a encore 40% du marché particulier qui n'est pas adressé et géré par les professionnels en France. Quand on sait que c'est pas du tout la même chose qui se passe, ne serait-ce qu'en Belgique, aujourd'hui en Belgique, 90% d'un particulier qui veut acheter passe par son agent immobilier. On a moins de 10% en l'occurrence qui échappe par l'agent immobilier. Et je trouve qu'en France, je suis parti de ce constat, je me suis dit non mais attends, il y a un problème, ça fait 10 ans que la part de marché elle ne baisse pas, et pour autant on a d'un côté des agences vitrées qui sont gérées par des agents immobiliers, et de l'autre côté des mandataires immobiliers qui font vraiment partie du paysage. Et je me suis dit il faut absolument qu'on réunisse la profession, et je pense que vraiment je compte sur nos syndicats pour faire ça, pour travailler à une énergie principale, c'est de faire baisser la part du marché du particulier.
Alors justement, vous êtes installé en France, effectivement, dans un contexte un peu particulier, parce qu'il n'a échappé à personne que le marché est quand même sérieusement grippé. Effectivement, vous avez une plus-value particulière, parce que vous avez un ADN, n'est-ce pas Vincent, qui est quand même assez original dans le paysage français.
Ouais, c'est-à-dire que vous souhaitez vous adapter vraiment au grand public et au mode de consommation aussi qui évolue dans l'immobilier. C'est quoi cette stratégie sur le client final, et comment vous travaillez autour de ces nouveaux modes de consommation et modes d'approche des particuliers de l'immobilier?
Alors, pour répondre à ça, c'est assez simple. Je dis toujours qu'avant tout, chez Winvest, on est le personal shopper de notre client. Ouais. Et c'est pas anodin ce terme, il est assez puissant, parce qu'en réalité, je trouve que depuis longtemps, on doit remettre les lettres de noblesse à la relation client. Voilà. Je pense qu'il faut pas l'oublier, pendant des années, on était sur un marché où on s'occupait beaucoup du propriétaire bailleur et assez peu de l'acquéreur. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être sur un équilibre de cession. Et c'est-à-dire l'équilibre de cession, c'est aussi bien représenter son vendeur que son acheteur. Et quand je parle de personal shopper, ça veut dire qu'on doit être là pour répondre à tous les besoins de notre client. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui est très difficile. On doit être là aussi pour l'accompagner dans son projet en toute transparence. Et cette notion de transparence, elle est très, très importante. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le client, il a besoin de s'entourer d'un conseiller immobilier qui soit compétent. Ça, c'est une vraie réponse. Pourquoi ? Parce que le client, il attend quoi ? Il attend de la rapidité, il attend de la réactivité de notre part. Et au-delà de ça, il y a quand même un élément important. On voit bien que les modes de consommation ont changé et qu'il y a également des nouveaux usages. Rénovation énergétique, viager. On parle même également aujourd'hui, vous avez une nouvelle structure qui existe et qui propose de pouvoir échanger sa maison moyennant un prix complémentaire. Voilà, ça a été porté, je crois, par BA. Donc, on sent bien aujourd'hui qu'en réalité, avec la vente interne, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, le paysage de l'immobilier change, les méthodes de financement changent et on a vraiment besoin d'avoir un conseiller.
Alors justement, on voulait vous interpeller aussi pour nos auditeurs sur l'actualité du marché qui pose question, bien évidemment, puisqu'on a constaté, on en a parlé tout à l'heure, et on continuera d'ailleurs d'en parler régulièrement sur les baisses de prix, notamment, qui sont plutôt salutaires pour réactiver notamment la primo-accession, l'accès à la propriété. Depuis quelques semaines, le marché immobilier apparemment se stabilise. Alors, je voudrais avoir votre avis sur la question. Est-ce que, oui, il se stabilise ? Deux, est-ce que les taux ont arrêté d'augmenter ? Est-ce qu'ils sont de nouveau stables ? Et voyez-vous, de votre point de vue, côté fenêtre ou invest, voir les acheteurs revenir ? Est-ce qu'on, finalement, concrètement, si on devait synthétiser la question, est-ce qu'on assiste, Xavier Bellevaux, à un rebond du marché immobilier ?
Oui, dans la transaction dans l'ancien, c'est une réalité. On voit bien, et avant de dire quoi que ce soit, c'est avant tout que les banquiers jouent un peu plus leur rôle en réalité. On voit bien qu'ils reviennent sur le terrain. Alors, on ne va pas dire que c'est l'effet printemps, mais quand on regarde un peu le baromètre meilleur taux, aujourd'hui, on est quand même passé, on était à plus de 4%, 4,20% en décembre. Aujourd'hui, on est aux alentours des 3,40% pour les dossiers excellents, 3,60% pour les dossiers moins sains et 3,80% pour les dossiers un peu plus tendus. Donc, on voit bien, en tous les cas, qu'il y a bien une accélération des banques qui reviennent et que la transaction dans l'ancien est en train de se remettre en place. Ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Aussi, on voit bien que la Banque Centrale Européenne, elle a envoyé des signaux forts et elle dit que si l'inflation est inférieure à 2%, on pourra même aller plus bas et pourquoi pas viser... alors, ils disent jusqu'à 2,50, moi, j'y crois absolument pas. Si déjà, on pouvait viser 3% pour la fin de l'année, ça serait très bien. Mais en tout cas, dans la transaction dans l'ancien, bah, les choses se passent et on est également rassurés. Le taux d'usure aussi, depuis le mois d'avril, il est passé à 6,49. Donc, ça permet d'avoir une meilleure assise et de pouvoir prendre des risques un peu plus importants sur des dossiers un petit peu plus difficiles. Donc ça, c'est également un bon voyant et qui ramène des voyants un peu plus verts. Par contre, il est vrai que sur le marché de la location, et on en parlera, c'est un peu plus tendu. On le voit bien entre 2021 et 2023, on a à peu près 36% de l'offre qui a baissé. On a également les loyers qui ont augmenté de 7%. Donc ça, ce n'est pas anodin.
On parlera tout à l'heure du marché locatif précisément. Sur ce point, sur ce que vous développez, les acheteurs sont donc contents. Du côté des vendeurs, il y a un chiffre qui ne bouge pas. C'est toujours très long de vendre un bien. Et comment vous expliquez ça et comment on pourrait y remédier ?
Quelles actions ? Alors, il n'y a pas de secret, c'est aussi très long, mais il y a plusieurs raisons. On pourrait dire que c'est une question du prix. Oui, bien sûr, il y a le prix. Mais on oublie souvent depuis quelque temps que le vrai prix, c'est aussi ce que le banquier peut financer. Si on regarde un petit peu depuis le début de l'année, on a des baisses de prix sur le territoire, elles aussi entre 1 et 3%. Pour autant, si je donne quelques exemples, Villeurbanne, depuis le début d'année, on est environ à moins 4,2%. Le Havre, moins 3,5%. On a Grenoble, 3,1%. Et puis si on regarde du côté de Reims et Strasbourg, on est à peu près à moins 2,7-2,8%. Mais si on fait un parallèle et qu'on cumule sur une année, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Villeurbanne, c'est pratiquement 9% de baisse de prix. Donc ça commence à pas être anodin. Ouais. Voilà. Mais le Havre, c'est pratiquement plus 5% de prix sur un an cumulable. Donc là, on voit bien que pour autant, on a beau essayer de faire des efforts et de faire de la pédagogie autour de nos vendeurs, ça ne fonctionne pas forcément. Et Grenoble, on est moins 1%, donc on ne peut pas dire non plus que c'est foufou. Et Reims, c'est moins 2,4%. Donc ça veut quand même bien dire aussi que les prix, ils ont beau baisser, mais qu'on doit continuer à travailler auprès de nos vendeurs la possibilité de travailler le prix. Un exemple concret, en 2018, je donne toujours cet exemple-là, il est très vrai. En Saône-et-Loire, dans le 71, vous vouliez acheter une maison, 1000 m² de terrain, 150 mètres carrés habitables. Le prix, il oscillait en moyenne entre 200 et 250 000 euros. Je rappelle qu'en Saône-et-Loire, le salaire moyen pour un CSP, ouais, c'est 2 000 euros. Ouais. Aujourd'hui, la même maison, 1000 mètres carrés de terrain, 150 mètres carrés, il faut compter entre 350 et 430 000 euros au prix d'achat, au prix de vente affiché, pardon. Mais c'est impossible, c'est mathématiquement impossible. Pourquoi ? Avec 2 000 euros de revenus, le banquier, il peut absolument pas faire supporter des échéances aux alentours des 2 500 euros par mois. Donc je pense qu'il y a une vraie pédagogie de la part des professionnels de l'immobilier, qu'ils soient mandataires ou agents, j'ai envie de dire conseillers, auprès des clients pour leur prouver par A plus B qu'on doit baisser les prix.
Alors, c'est intéressant que vous parliez de la relation avec l'agent immobilier, parce que c'est la question qu'on se pose. C'est, on fait des enquêtes d'opinion, et dans les enquêtes d'opinion, on voit revenir une chose assez constante, que les Français veulent avoir affaire à l'humain, à la relation directe, pour les parcours résidentiels, pour que ce soit la location, l'achat, etc. On le voit, hein, c'est très très net. Mais quand même, on voit bien que le passage par le digital n'a jamais été aussi fort. Par exemple, comme vous le savez, on a des statistiques, vous me direz si vous êtes d'accord là-dessus, 92% des personnes qui cherchent un bien commencent par Internet, sont sur le digital, utilisent des applications, utilisent par exemple des recherches sur les prix, sur les calculs de prix de mètre carré, font des comparaisons sur les écoles, les proximités, les logements. Comment on fait, quand on est patron de réseau aujourd'hui, avec une dimension européenne, pour concilier les deux dans un marché qui est hyper tendu?
Alors, si je puis me permettre, je vais faire juste un arrêt sur image. Prenons un exemple concret, le banquier, le domaine bancaire. Aujourd'hui, plus que jamais, pour les grandes décisions, ça n'a rien changé. Un acheteur, quel qu'il soit pour son projet immobilier, il fait appel à son conseiller bancaire. Il va le voir. Pour autant, en 15 ans, on a complètement digitalisé et redonné un rôle au conseiller banquier qui est de s'occuper de son client. Tout bête. Il y a 10 ans en arrière, on l'a tous connu, on avait un problème de carte bancaire ou de plafond ou d'opposition. Qu'est-ce qu'on faisait ? On appelait le banquier. Aujourd'hui, c'est terminé. On passe par les applicatifs. Je vous donne un exemple concret.
C'est vrai qu'on passe par les... Mais oui. On n'a plus personne.
Mais non, mais sauf quand on a un vrai besoin. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je vous donne un exemple concret. J'avais 20 ans, 20, 22 ans, je crois. Je perds ma carte bancaire. Effectivement, elle est usurpée. Il m'a fallu 2 mois pour gérer avec le banquier à l'époque cette problématique de paiement. Il a fallu porter plainte, etc. Samedi dernier, je découvre que ça m'est arrivé. Bon, ben voilà, j'ai eu des achats sur Meta. Voilà, ben c'est tout bête. Je m'en rends compte parce que je fais mon relevé moi. Et je dis, mais tiens, c'est quoi ces petites opérations? C'était que des petits montants. Je me mets sur mon application de la banque, je mets ma carte en opposition. Aussitôt, ils me sortent mon relevé de compte depuis le début du mois de l'année. J'ai qu'à cocher les opérations. Je coche, j'envoie. 45 minutes après, je recevais un ordre de virement de la Caisse d'épargne qui m'indiquait que j'allais être crédité sous 30 jours des sommes qui étaient versées. Vous imaginez, en 15 ans, on est passé de 2 mois à 15 minutes. Et ça, c'est top parce que je n'ai pas embêté mon banquier pour ça. Je vais juste donner un petit message pour le tenir informé. Et lui, là, j'ai un projet immobilier. Ben là, je peux le contacter. Il est pleinement disponible. Et je trouve qu'au contraire, ça lui permet de mieux se former. Eh ben, c'est le paradoxe qu'on doit avoir dans l'immobilier. Dans l'immobilier, aujourd'hui, on doit continuer à digitaliser un certain nombre de choses. Sylvain.
Alors, on va parler d'inflation, justement, Vincent. Un vrai sujet. Autour de la construction de logements neufs.
Très, très rapidement. Et sur l'inflation et sur le neuf, 15% d'inflation en un an, tout secteur confondu. L'impossibilité aussi d'artificialiser les sols, on en reparlera dans la deuxième partie. Est-ce que le neuf est encore intéressant chez WeInvest? Comment vous voyez ça?
Écoutez, je le vois d'une manière très simple. Pour moi, le neuf, oui, il est intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de nouvelles constructions. Déjà, quand vous achetez du neuf, l'avantage, c'est que vous payez uniquement les frais de notaire uniquement sur la quote-part du terrain acheté. Et ensuite, quand vous construisez une maison, vous n'avez pas l'assiette des droits de notaire. Et ce n'est pas anodin.
On parle de pratiquement... Ça divise par 4 les frais de notaire. C'est entre 2 et 3 %
Et deuxièmement, oui, voilà, parce que normalement, c'est 7 à 8 %. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire. Vous achetez un terrain de 100 000 euros et que vous faites construire, par exemple, une maison de 150 mètres carrés, ça va vous aller aux alentours des 200 000 euros. Donc, imaginez que si vous achetez la même maison sur une base de 450, c'est pratiquement 35 000 euros de frais de notaire. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, il y a un premier gain qui vous permet de finir les extérieurs. Deux, hyper important, vous avez la garantie décennale qui vient vous protéger pendant 10 ans des problématiques ou de malfaçons ou des problématiques de livraison par rapport à de mauvaises fenêtres, etc. Ou des fissures qui arriveraient, c'est une vraie garantie. Et si vous vendez, parce que pour X réseau, dans les 10 ans, vous avez cette garantie. Trois, c'est souvent des biens qui sont en consommation DPE A ou B. Donc ça veut dire que vous allez faire des économies d'échelle, des économies d'énergie et que vous allez aussi vivre dans quelque chose que vous avez choisi, donc qui correspond à vos desiderata. Donc je pense que c'est hyper important actuellement, et dernier point très important, comme aujourd'hui, malheureusement, et j'espère que c'est temporaire, la construction, c'est un peu plus difficile. Donc, vous avez aussi l'opportunité qu'on n'avait pas avant de pouvoir négocier sur des fins de programme des modalités ouais. ou des prix que vous n'auriez pas eu avant. Mmh. Et donc, c'est parce que tout ça, il faut le tenter, il faut le regarder, il faut être important. Par contre, point de vigilance, je le dis toujours, quand on est primo-accédant avec un budget serré, je dis toujours qu'il vaut mieux racheter de l'ancien pour un premier investissement que de créer, parce qu'on ne se rend pas compte que quand on achète du neuf, il ne faut pas prendre que le coût de la maison, que de la construction de la maison. Il y a plein de frais annexes, le portail, les extérieurs, et ça, ça vient vite chiffrer. Et le banquier, il est toujours ennuyé quand il faut rajouter ces frais-là sur un prêt qui a déjà été délivré.
Merci beaucoup, Xavier Bellevaux. On va continuer après. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'entretien, puisque, comme vous le savez, il est d'usage, dans le grand rendez-vous de l'immobilier, de répondre à vos questions, les questions que vous posez sur le club Facebook géré par Capital et Proprio, où on répond avec nos amis avocats, experts comptables ou tout simplement notaires, mais aussi agents immobiliers. On se retrouve tout de suite après la première séquence. Ça vous concerne.
Ça vous concerne.
Eh bien voilà, ça vous concerne. Première partie, les amis, vous le savez, tous les mois sur le groupe Facebook des Proprios, géré par nos amis de Capital, vous nous posez les questions et on vous répond en direct. Et voici venir notre ami Vincent. Comment ça va, Vincent ?
Bonjour, ça va très bien.
Voilà, Vincent, toujours à la manœuvre. Nous avons oui. une question pour notre notaire préféré. Oui. C'est Thierry Delsalle qui est avec nous.
Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour. Porte-parole de la Chambre des notaires du Grand Paris. Une première question pour vous de Jean-Philippe à Malakoff. Mon oncle vient de disparaître. Pour la succession, nous ne retrouvons pas le livret de famille de ses parents à son oncle. Donc, comment faire pour que la succession ne soit pas bloquée ? Est-ce qu'elle est bloquée ?
Ah ben, quand on ne connaît pas les héritiers, elle peut être bloquée. Oui, absolument. Alors, on pourrait, dans un premier temps, se dire, bah oui, on va demander des extraits de naissance pour retrouver le lien de filiation. Mais le problème, c'est que là, on est en zone ascendante et on n'est pas du tout en descendant. Et donc, pour connaître l'intégralité des héritiers, eh bien, je ne vois pas d'autre système ou d'autre moyen que de faire appel à un généalogiste. Mmh. Un généalogiste qui est une profession tout à fait indépendante, hein, qui... et qui travaillent, ça dépend, ils sont soit en pourcentage de la succession, ou alors c'est vous les payez au forfait sur une mission. Hmm.
Donc on peut faire appel et c'est reconnu ?
Ah tout à fait, ouais. Oui, oui, oui. Et donc eux, bah, ils font des investigations dans le monde entier. C'est un métier assez passionnant d'ailleurs d'être chercheur chez un
c'est quoi, c'est un généalogiste, non?
Oui, c'est ça, chez un généalogiste. Oui.
Mais il ne peut pas traverser la terre entière pour des successions qui sont trop faibles.
Ah ben là, évidemment, ça c'est
en
sûr
fait,
que
ça, évalue,
ça dépend aussi
si
un
c'est une
petit
succession
peu de,
de quelques dizaines de milliers d'euros, il ne va pas se déplacer voilà. à l'autre bout du monde, non?
Non.
Mais c'est vrai qu'on avait vu un reportage à la télévision, justement, c'était incroyable. Des familles retrouvées aux États-Unis.
Ah oui, oui, oui. Bah, c'est-à-dire que la population bouge, hein, surtout depuis la dernière guerre. Donc oui, il y en a sur tous les continents. Ouais.
En tant que notaire, vous avez fait appel à des généalogistes ?
Ah, très, très souvent. Très, très souvent.
Et il y a un exemple où vous avez retrouvé quelqu'un qui était à l'autre bout du monde dans votre carrière ?
À l'autre bout du monde. Enfin, moi, je n'ai pas dans mes dossiers, mais oui, ils m'ont raconté qu'effectivement...
C'est extraordinaire.
Ah oui, ils s'amusent. Oui, ils s'amusent.
Ensuite, en direction Salon de Provence.
Oui, avec Agnès qui souhaite acheter un bien en location, c'est-à-dire que le bien est loué. À l'achat, est-ce qu'elle doit reprendre exactement les termes du contrat ? Est-ce qu'elle peut ajuster le loyer de son nouveau locataire ? Et comment elle peut donner congé, si elle le souhaite, au locataire de ce bien qu'elle veut acheter ?
Oui, alors là, la réponse n'est pas du tout simple, contrairement à la dernière question. Ça s'est beaucoup compliqué depuis une dizaine d'années. Les pouvoirs publics adorent un peu empiler les lois. Et aujourd'hui, alors oui, effectivement, quand on reprend un bail, on reprend le contrat. Ça, on ne peut pas faire autrement. Mais à tel point qu'aujourd'hui, on est tenu par la durée du bail quand on achète. Et les pouvoirs publics, on en rajoutait une petite sauce. C'est-à-dire que si vous voulez donner, vous savez, vous avez plusieurs possibilités de donner congé. Vous pouvez donner congé pour reprendre, pour habiter. Hein, vous voulez acheter un bien loué, vous dites ben, je vais l'acheter moins cher. Et puis dès que je peux, je donne congé et je le récupère pour moi. Pour moi ou pour mes enfants. Bon, et bien là, aujourd'hui, ils ont mis en place un système. Si le bail vient à expiration dans moins de 2 ans, par exemple. Hein, vous achetez aujourd'hui et puis ça se termine dans 18 mois. Vous pouvez donner congé toujours 6 mois avant. Hein, le congé, c'est toujours 6 mois avant la fin du terme. Mais par contre, vous êtes obligé, le bail est prorogé de 2 ans de votre achat. Donc, c'est aujourd'hui, 16 mai 24. Et donc, vous pouvez donner congé, c'est un peu compliqué, mais en fonction des termes du bail 6 mois avant, mais qui ne prendra effet que 2 ans après l'acquisition, donc le 16 mai 2026.
Ah oui.
Ça, c'est première possibilité. Deuxième possibilité, je donne congé pour vendre. Alors là, congé pour vendre, c'est pire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand vous prenez un bien occupé, si le bail se termine dans moins de 3 ans, eh bien, il est prorogé de 3 ans. Ah oui. Donc là, c'est un peu la cata. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez un bien avec le loyer qui se termine, admettons, je ne sais pas moi, au 31 décembre 26, eh bien, il faudra attendre le 29.
Ah bon ?
Ah oui.
C'est automatiquement
renouvelé. Oui, et alors, en plus, c'est
même
vrai
si
que...
Si on le dénonce 6 mois avant le terme des 3 premières années,
voilà,
ça ne change rien.
Ça ne change rien. Aujourd'hui, vous êtes...
Donc ça équivaut à un bail de 6 ans, finalement.
Oui, et alors justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que quand vous achetez, il faut faire très attention à de qui vous achetez, parce que si vous achetez d'un institutionnel, par exemple, ouais. Eh bien, les baux sont de 6 ans. Il n'y a que les particuliers qui font des baux de 3 ans. Donc, les professionnels font des baux de 6 ans, donc vous vous retrouvez avec un bail de 5 ans. Donc là, OK, ça marche. Vous êtes obligé d'attendre encore 5 ans. Mais si, même pour un bail de professionnel et que ça se termine, je ne sais pas, moi, par exemple, dans 2 ans et demi, eh bien, c'est reparti pour 5 ans et demi.
Donc, le congé pour vendre doit tenir compte de cet élément-là. Est-ce que si le locataire n'est pas au courant de cette législation-là et qu'il l'accepte?
Ah ben oui, évidemment, c'est sûr que là...
mais s'ils se rendent compte, par
mais
exemple...
Mais ils sont très au courant, oui, vous n'en faites pas. Aujourd'hui, ils sont... Oui. Ben, vous êtes là pour les informer. Hein.
Donc en fait, pour des investisseurs qui achèteraient un appartement avec un bail en cours...
Ah, ils doivent se méfier. Ils doivent vraiment regarder...
Ils doivent vraiment vérifier.
Ah oui, ils doivent vraiment regarder. Ah. Et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, si c'est pour habiter ou si c'est pour le vendre. Bon, s'il veut continuer, que c'est juste un placement, bah, tout va bien.
Oui, oui, bien sûr.
Mais s'il doit arbitrer, parce que c'est vrai que quand on achète, on a toujours envie d'eux. Ouais. Et puis, il peut se passer que 2 ans plus tard, vous changiez d'avis et vous voulez arbitrer, revendre ou je ne sais quoi. Ouais. Et du coup, bah, là, vous êtes scotché par cette réglementation.
C'est très clair.
Donc, pour Agnès, c'est quand même quelque chose à étudier de très près.
Oui, ouais. et à bout tout.
Avant la promesse de vente.
Et vous tous qui nous écoutez, toujours vérifier lorsque vous investissez, par exemple. Ça peut être intéressant d'avoir la poursuite du bail. Mais si vous aviez dans l'idée d'augmenter, par exemple, les loyers ou, par exemple, d'arbitrer.
Ah ben là, c'est mort.
Voilà, c'est mort.
là, carrément, c'est mort. Si vous voulez. Oui, dans la question, il y avait est-ce que je peux augmenter.
Oui, est-ce que je peux ajuster le loyer.
Absolument. Ouais. Alors, il faut faire des travaux.
Ah, d'accord.
Ah bon.
Alors oui, alors c'est vrai qu'avec aujourd'hui toute la réglementation thermique, vous avez la possibilité d'imposer aux locataires des travaux d'isolation thermique. Si jamais, par exemple, vous êtes en F ou G ou E, peu importe, vous dites, bon, ben, moi, je veux être réglo et faire des travaux. Donc, vous les imposez aux locataires. Et du coup, le coût des travaux, forcément, il faut que ça soit une rénovation quand même assez importante, peut justifier une augmentation de loyer.
Oui, mais enfin, s'il y a des travaux qui nécessitent le relogement du locataire, on fait comment ?
Ah là, oui, il faut le reloger.
Ben, c'est aux frais du locataire.
Et oui,
du propriétaire.
Ouais.
Dans les mêmes termes que le bail précédent.
Et oui. Il faut être propriétaire de beaucoup de biens.
On aime beaucoup les propriétaires.
Oui, c'est-à-dire que tous les institutionnels...
Fait, vous imposez les travaux à votre locataire, mais si ça nécessite le départ du locataire temporairement pour faire ses travaux... Vous êtes obligé de le relouer pendant ce laps de
sauf
temps.
Un accord avec lui.
Oui,
bon, voilà, c'est pour ça que les compagnies d'assurance qui ont des parcs immobiliers importants, de moins en moins importants dans l'habitation, mais quand même, arrivent à reloger. Parce que, voilà, elles ont un parc important. Mais le petit bailleur privé qui représente la plus grande majorité des Français propriétaires...
Il y a quand même un déséquilibre, on va dire, de traitement entre les uns et les autres. Merci beaucoup, Thierry Delsal. On rappelle... Il est porte-parole de la Chambre des notaires. Merci encore une fois. On enchaîne tout de suite avec la séquence qui convient bien ici au grand rendez-vous de l'immobilier.
Ça vous concerne.
Eh bien, les amis, vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est notre 59e numéro. Et oui, déjà 59 numéros avec notre expert qui nous suit depuis un moment, qui est aujourd'hui un avocat connu, reconnu dans le monde de l'immobilier. C'est Maître Romain Rossi-Landy. Bonjour maître.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et comme d'habitude, bien évidemment, c'est notre ami Vincent qui va vous poser les questions.
Oui, avec une première question d'Alexis. Il est à Paris, il est locataire. Son propriétaire vient de l'informer qu'en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques, son loyer va augmenter en juillet, août, septembre. Il nous dit, est-ce que c'est légal? Et en cas de refus, en fait, le propriétaire parle même de lui donner congé. On est dans quoi, là?
Oui, alors, je ne sais même pas si vous avez besoin de moi, là, pour le coup. C'est évidemment complètement illégal. Ouais. On ne peut pas augmenter comme ça un loyer sous prétexte qu'il y aurait des Jeux Olympiques, n'importe quoi. Le loyer, il est encadré, en plus à Paris, hein, vous le savez. Donc, il y a l'indexation annuelle, ça, d'accord. Mais le prétexte des Jeux Olympiques pour dire, OK, je vais augmenter un peu ton loyer, on va... Alors, par contre, ça se fait. Hein. Que malheureusement, ça se fait. Alors, ça se fait un peu à la mise en location. J'ai vu certains reportages, c'est assez choquant, il y a même des agents immobiliers qui sont complices de ça, qui proposent des biens en leur disant « attention, il y aura un petit loyer supplémentaire, un petit surloyer pendant un mois et demi pendant l'été ». Comme les gens veulent se loger, que c'est compliqué, il y en a certains qui acceptent. C'est complètement illégal. Il faut dénoncer ce genre de pratique, comme il faut dénoncer les propriétaires. Voilà, ce propriétaire, c'est absolument invraisemblable. Et de faire du chantage au congé derrière, encore une fois, on ne peut pas donner congé comme ça. On donne congé soit pour vente, soit pour reprise. Tout ça, c'est très encadré par la loi du 6 juillet 89. Donc, c'est impossible. Alors, il y a des malins qui font des baux civils. On en entend beaucoup parler aujourd'hui.
Oui, le bail civil.
Oui, le bail civil. Donc, c'est à la mode. C'est plus souple. Donc, on sort de la loi de 89. Mais le bail civil, ça ne fonctionne que pour les résidences secondaires. Et même dans un bail civil, on fixe un loyer. On peut pas. Alors, on pourrait imaginer avec peut-être un avenant, pendant la période des JO, augmenter un peu le loyer. Bon, mais c'est quand même très, très contestable. Ouais. Et si ça arrive, je pense que le locataire a intérêt à saisir le tribunal et à demander une requalification en bail de loi de 89. Et à mon avis, il l'obtiendra.
Ah oui.
Donc, complètement illégal.
Complètement illégal. Donc, on reste sur son contrat de location. Et il ne bouge pas. Et alors, il n'y a pas de droit
là-dessus. Il faut surtout lui dire à notre ami, il s'appelle Alex. Hein.
Alexis.
Alexis, surtout, hein, si vraiment ça se précipite un peu, vous prenez un avocat. Hein.
Ah bah oui, c'est un bon réflexe.
Hein, en fait, vous prenez un avocat, vous faites un recours là-dessus. Je peux vous dire qu'un mec qui a une bonne lettre d'avocat bien torchée,
oui,
il va se calmer.
Normalement, il laissera tomber.
Il va se calmer.
Il n'a aucune chance devant le tribunal, de toute manière. Donc.
Non, mais je veux dire, on pourrait aussi signaler ce comportement. Je suis désolé, c'est pas croyable quand même qu'on ait des gens d'une cupidité telle.
Les gens deviennent fous avec les JO. Moi, j'ai un dossier. Mon client m'appelle un matin, il me dit je ne peux plus rentrer chez moi, je suis à la porte. J'ai commencé à. Les serrures ont été changées. Je pense que c'est mon propriétaire parce qu'il m'avait dit qu'il allait faire des travaux, donc je suis parti 10 jours pour qu'il fasse ses travaux. Et depuis, il a changé les serrures. Et c'est pour pouvoir relouer pendant les JO. Donc ça, je ne peux pas le prouver. Mais depuis, donc, j'ai dû faire une procédure. Donc là, on a téléporté plainte, violation de domicile, tout ça, les flics n'ont rien fait. Je fais une procédure. Donc j'ai une date d'audience là, à Montreuil le 25 juin, en urgence, en référé, pour demander la réintégration dans le logement.
Et il a un bail ?
Bien sûr. Alors, c'est un peu particulier, c'est qu'il a un bail verbal. Alors, il a un bail verbal, et donc c'est pour ça que le propriétaire, je pense, se croit tout permis. Il dit qu'il n'a pas de bail écrit. Mais le bail verbal, c'est parfaitement légal.
Ah oui.
Moi, j'ai fait constater.
Ah ben ça alors.
Je vous explique, parce que c'est intéressant ce dossier. J'ai fait constater par huissier les échanges de SMS. Tous les mois, il y avait un SMS du propriétaire qui dit envoie-moi le loyer, n'oublie pas ton loyer. Donc, moi, je l'ai fait authentifier ça. Et donc, je prouve qu'il y a bien un bail verbal. C'est parfaitement légal, un bail verbal. Et donc, je pense que ce propriétaire se croit un peu au-dessus des lois en se disant il ne pourra pas prouver la location. Bah, si, je peux la prouver grâce aux échanges de SMS, aux échanges de correspondance.
Mais pourquoi un bail verbal? Pourquoi il ne l'a pas fait écrire?
Et mon client a été un peu léger, ça, c'est sûr. Mais encore une fois, ce n'est pas écrit dans le marbre. On doit signer un bail écrit. Donc, moi, je considère qu'il y a un bail verbal, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute.
Et là, aujourd'hui, il est où? Il est à la rue.
Et là, il paye des Airbnb, donc je garde les factures. Je vais demander aussi la condamnation du propriétaire à rembourser. Les frais d'Airbnb pour le relogeant.
Et il sera rien.
Je vous tiens au courant, parce que l'audience, ça se plaide le 25 juin.
Et vous allez gagner.
J'ai bon espoir, honnêtement. Là, il faut prouver le bail verbal. À partir du moment où je peux prouver le bail verbal...
Et vous avez les éléments. Est-ce que les SMS ou les appels sont
recevables? Les SMS,
recevables,
dès lors qu'on les fait constater par un huissier, donc il regarde, il regarde le téléphone, etc. C'est authentifié.
Okay.
Et donc là, il ne pourra pas dire le contraire.
Là, ça a été le cas, là.
Ah oui, là, j'ai les pièces. Je vous tiens au courant pour la suite, hein, mais normalement, j'ai bon espoir.
On apprend toujours quelque chose avec maître Romain Rossilandi.
Et notamment que les JO rendent un petit peu fou. Voilà.
On va ensuite direction Lille.
À Lille, avec Gwenola à Lille. Elle a signé un bail locatif il y a un an. Elle est propriétaire. Elle vient de découvrir que les fiches de paye de son locataire sont fausses. Le nom de l'entreprise où le locataire est censé travailler a fermé 6 mois avant le début du bail. Est-ce qu'elle peut lui signifier quelque chose? Elle a peur pour l'instant, il paye, mais comment s'en protéger pour la suite? Parce que manifestement, il y a un faux.
En fait, elle constate qu'il y a un abus et, un, et des fausses pièces dans le dossier, ouais. et pourtant, le loyer est payé. Qu'est-ce qu'on fait ?
C'est une bonne question. Cette fois, c'est le locataire qui est malhonnête. Bon, on en a pour tous les coups.
Ça arrive.
Alors, c'est, d'abord, il y a une première chose à faire. S'il y a un faux usage de faux, on peut aller porter plainte pour faux usage de faux. Alors bon, je vous le dis tout de suite, cette plainte, elle sera classée sans suite. Il n'y aura jamais, à mon avis, de suite pénale pour ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il paye le loyer. Donc, on pourrait imaginer que le propriétaire se dise, bah, écoutez, moi, j'ai été trompé, c'est ce qu'on appelle un dol, hein, il y a une manœuvre dolosive, on m'a trompé, c'est-à-dire, quand on a signé ce bail, moi, on m'a donné de fausses fiches de paye, donc j'ai des garanties, etc. Mais à partir du moment où il paye le loyer, obtenir la résiliation du bail, donc l'expulsion du locataire uniquement parce qu'il a triché lors de la location, j'y crois pas. Moi, j'ai eu des dossiers comme ça. Alors, en général, ça s'accompagnait quand même de non-paiement de loyer, c'est ça la vraie question. En général, on s'en rend compte quand le locataire ne paye plus son loyer. Donc là, oui. Effectivement, c'est un argument supplémentaire pour obtenir la résiliation du bail, parce que la mauvaise foi du locataire, ça joue. Le tribunal, évidemment, est là pour l'apprécier.
Donc ça aide ça.
Mais dans sa situation-là, s'il continue à payer le loyer, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est pourquoi pas lui donner un congé pour la prochaine échéance pour motif grave et légitime. Je pense que ça peut constituer un motif de congé, mais franchement, c'est difficile à apprécier, parce que si les loyers sont payés, les tribunaux sont très réticents, croyez-moi, à ordonner l'expulsion d'un locataire, même quand il a triché. Ça sera considéré comme une circonstance aggravante au sens civil, hein, évidemment, mais pas obtenir la résiliation uniquement là-dessus, je ne pense pas.
D'accord, très bien. Bon, en tout cas, elle le sait, il faut qu'elle garde les pièces et que ça puisse servir si jamais
oui,
il en vient.
Elle devrait aller porter plainte quand même pour le dossier et peut-être faire un courrier recommandé pour avoir des indications.
Donc, elle a pris peur parce qu'elle se rend compte que c'est faux. Parce qu'elle n'a pas utilisé forcément des outils de vérification.
Il fallait téléphoner à l'employeur.
Et puis aujourd'hui, il y a des outils de vérification qui permettent de le faire. Juste une question complémentaire, justement, sur ce dossier-là. On l'a vu, ces derniers temps, on assiste à une inflation de faux dossiers à la location. Est-ce que cette tendance, vous la confirmez ?
Je l'ai toujours vu, mais je crois que ça augmente vraiment là, parce que le marché est tellement tendu. Moi, j'ai toujours vu ça. Dans les dossiers, on s'en rend compte souvent. Alors, parfois, ce sont des faux grossiers. Hein. J'ai vu des faux avis d'imposition et on peut même les télécharger sur Internet. Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, ça a toujours existé, mais on s'en rend compte souvent quand les loyers ne sont pas payés, en fait. C'est l'allocation d'un contentieux. Il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte. Ce qui est plus embêtant, c'est quand un agent immobilier se fait avoir lui-même. Parce que ça, j'ai aussi eu le cas, si l'agent immobilier ne vérifie pas la solvabilité et les garanties de solvabilité qui sont fournies par le locataire, y compris les vrais ou les faux documents, il engage également sa responsabilité vis-à-vis de son mandant. Donc ça, je l'ai vu aussi. Et j'ai fait condamner des agents immobiliers parce qu'ils n'avaient pas été suffisamment vigilants lorsque le dossier de candidature a été constitué.
Très, très clair. Toujours grande vigilance et utiliser encore une fois, parce que c'est aussi là l'occasion de dire... c'est le propriétaire de faire en sorte qu'on doit toujours prendre des professionnels qui vérifient et parfois payer un peu d'honoraires ou un abonnement ou même un administrateur de biens ou tout simplement un avocat qui vérifie, ça permet d'éviter beaucoup de soucis.
C'est sûr.
Merci beaucoup. Romain Landy, si vous cherchez un bon professionnel, un bon avocat, rossi-landy-avocat.fr, voilà, pour un bon avocat spécialisé dans l'immobilier.
Eh bien, on enchaîne bien évidemment toujours avec nos séquences. Vous êtes dans le 59e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On se retrouve tout de suite après ça.
Le Grand Témoin.
Et voilà, le Grand Témoin qui est toujours sur notre plateau, c'est Xavier Bellevaux. Merci Xavier Bellevaux de rester avec nous pour ce 59e numéro de l'Immobilier. On voulait mettre la lumière sur votre expertise, justement. Vous êtes le directeur général de We Invest France et vous êtes bien sûr toujours avec nous pour cette deuxième partie de l'entretien. Première question, on va dire juridique, législative. Nous avons un nouveau ministre, le cinquième ministre sur les quatre précédents gouvernements. Quand même, gouvernement Attal, la loi dite Kasbarian, qui n'est pas une loi Kasbarian puisqu'elle n'est pas encore été votée. Hein, ouais. Elle a été présentée à l'Assemblée nationale sur notamment l'offre de logements abordables. Elle est portée par le ministre du Logement. Elle dit plusieurs choses. Durcissement des conditions de maintien dans le parc locatif social. Nouveau pouvoir des maires pour déroger aux obligations des habitations à loyer modéré. Augmentation de la part du logement intermédiaire, qu'on appelle le LLI, logement à loyer intermédiaire, dans le parc HLM d'environ 10 à 20%. Et est-ce que ces mesures, pour vous, Xavier Bellevaux, ce que vous êtes exprimé sur le sujet, vont dans le bon sens, à votre avis? Est-ce que cet indicateur du logement social va permettre aux Français qui sont aujourd'hui complètement à l'os, mais vraiment tendus de chez tendus, on a rarement atteint un niveau de tension sur l'accès au logement, est-ce que vous le voyez d'un point de vue positif ou pas?
Je pense qu'en réalité, au niveau de la loi Kasparian, avant tout, le projet de loi, on est très axé sur le marché locatif. Et je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est déjà qu'on doit reprendre en compte ce qu'on appelle le contexte actuel. Contexte actuel, on le connaît, on a eu la pandémie au niveau du Covid. Ensuite, on a eu une régulation accrue qui se sont mis au niveau des encadrements des loyers, des conditions d'inflation qu'on a eues. On a eu des problématiques sur la politique du logement, incitation à la rénovation énergétique. Ça, c'était important. Pour autant, il faut quand même se rendre compte qu'il y a aussi des mesures qui se jouent ailleurs. Regardez la location meublée avec l'Airbnb. Vous voyez, depuis le 1er avril à Lille, il y a eu des décisions qui ont été prises. Et aujourd'hui, chaque personne qui aura une résidence secondaire et qui voudra louer dans le cadre d'un Airbnb aura des obligations de pouvoir faire des éléments par rapport à ça. Et parallèlement, on sent bien qu'on est contraint. On a eu d'abord l'interdiction de pouvoir louer des biens qui étaient G+, avec la note qui dépassait les 450 kWh en énergie, etc. Donc on voit bien en tout cas que ce n'est pas facile. Après, vous allez me dire, on a la période des Jeux Olympiques, peut-être qu'en Île-de-France, les choses vont se stabiliser, mais on se rend compte que ça ne va pas résoudre le problème dans sa globalité. On sent bien aujourd'hui que l'État doit intervenir, et en ça, on ne peut que saluer le ministre de porter une loi par rapport à ça. Mais il va falloir avoir, je pense, des incitations fiscales auprès de nos propriétaires pour pouvoir les aider, mais aussi faire un soutien, j'ai envie de dire, aux locataires pour pouvoir les accompagner dans ce cadre-là, puis également lutter contre la vacance. Je pense qu'aujourd'hui, à un moment, il faudra peut-être qu'on réfléchisse à une taxe, parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont propriétaires, qui préfèrent ne pas louer pour ne pas être ennuyés, pour x, y raison. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Donc oui, cette chose va dans le bon sens. C'est important de le faire.
Pardonnez-moi, mais on peut comprendre les propriétaires qui sont un peu échaudés par le matraquage fiscal et qui préfèrent ne pas louer, etc. C'est dramatique, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, les propriétaires, on a vraiment l'impression que c'est la variable d'ajustement de la politique fiscale actuelle.
De toute façon, au-delà de la politique fiscale, quand vous regardez aujourd'hui qu'un litre d'essence, on a 60% de taxes, je veux dire, quoi qu'il en soit, il y a un problème à un moment. Il faudra qu'on puisse réguler les choses. Mais maintenant, on doit être aussi ouvert et encourager les initiatives. Et je pense qu'à un moment, il n'y a pas très longtemps, il y a aussi une loi qui est portée dans le cadre de transformer les locaux professionnels en logement. Donc c'est une réalité aussi. Je pense qu'on doit le faire. Et il n'y a pas très longtemps, je rebondissais justement sur les conditions où on parle d'avoir des conditions plus drastiques, effectivement, pour les personnes qui vivent en HLM. Alors, et c'est sûr que quand on prend les prorata où on dit qu'on peut aller jusqu'à une famille, à plus de 6 personnes dans la famille, on peut aller à plus de 100 cas de revenus, ok, mais ça ne correspond pas à toute la France. Dernièrement, je discutais avec une personne qui divorce, voilà, qui a 36 000 euros de revenus, elle a 1 500 euros de trop de revenus par rapport aux conditions, elle a 4 enfants à charge, son mari ne va pas l'aider, elle n'aura pas de pension alimentaire, elle n'arrive pas à se loger. Parce qu'aujourd'hui, quand elle propose une garantie, même visale, ce n'est pas possible. Donc, il y a un vrai problème, et je pense que le problème, il est plutôt dans le manque cruel de construction de logements aussi à loyer modéré.
Ah, je suis absolument...
Voilà, ça, c'est le vrai sujet de fond. Absolument, et je pense qu'on doit aider nos prometteurs, et on doit aussi aider tous les organismes HLM à pouvoir les aider à rénover, parce que c'est un vrai sujet. Oui. Regardez le nombre de personnes handicapées, des fois, qui attendent plus de 20 ans.
Et à produire plus de logements sociaux.
Et à produire plus de logements sociaux, c'est une réalité.
On va parler de simplification.
Oui, parce qu'on est sur une nouvelle loi. Thierry Delsalle, notre expert notaire, nous disait les gouvernements adorent empiler les lois. Et quand même, cette nouvelle loi, elle nous parle de simplification, notamment pour construire plus vite. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que dans le montage de WeInvest et dans le parcours des particuliers avec leur agence, on peut penser qu'il ne faudrait pas là aussi de la simplification pour accompagner le particulier à retourner vers un logement?
Bien sûr, mais là, j'ai envie de vous dire, bien sûr qu'il faut, mais ça revient...
Pardonnez-moi, vous avez tout à l'heure dit une chose importante, que le digital a amélioré la relation.
Oui.
Donc elle a redonné finalement un pouvoir aux échanges. Dans la simplification, il y a quelque chose de très important qui est celui de redonner aussi la capacité de l'échange. Est-ce que justement, pour vous, cette simplification, elle est encore une fois positive et constructive pour la relation à l'autre?
Aujourd'hui, plus on pourra simplifier les procédures en immobilier, mieux cela sera. Mais ce n'est pas tout. On doit également simplifier et moins opacifier la relation avec nos clients. Moi, je rêve que demain, toutes les actions qui sont faites par un collaborateur en agence pour le compte d'un client, sur son espace client, le propriétaire bailleur ou bien le locataire ou bien l'acheteur, aient toutes les étapes clés, tous les éléments, et qu'ils puissent pressavoir en miroir un accès pour donner de la transparence. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la simplification, là encore une fois, je pense qu'on doit aider. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation énergétique. Cette loi, elle est très bien, mais aussi, des fois, on ferait regarder le parc notre parc de l'État. Quand vous regardez aujourd'hui les chambres de commerce et d'industrie en France, je suis désolé, elles ne sont toujours pas en conformité sur les ERP. Je pense qu'on devrait aussi penser à accompagner nos locataires, à accompagner les propriétaires avec des vraies remises sur les impôts, des vraies subventions, des vraies aides pour les... Parce que, qu'on arrête de faire, de dire n'importe quoi, un propriétaire de base, c'est son intérêt que son bien soit le plus cohérent possible avec le temps. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit, on manque d'incitation. Après, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Souvent, il y a eu des projets de loi, il y a eu des prêts à taux zéro qui étaient puissants. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, plus que jamais, la profession immobilière et les clients finaux, la pierre intéresse tout le monde, on doit être présent.
C'est sûr que dans le discours politique, on a entendu notre président Emmanuel Macron nous parler de choc de simplification.
Oui.
Force de constater que... Ça tarde réellement à arriver.
Mais Sylvain, juste par rapport à ça très rapidement, et je ne ferai pas de digression par la suite, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas si facile non plus, parce que les maires ont aussi leur importance. Quand je vous parlais du projet de loi sur transformer en fait, les locaux commerciaux en logements et de diminuer les délais, ben, ça pose des problèmes aux maires. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, ils ne vont plus percevoir les taxes dans le projet de construction. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a aussi... Dans tous les organes, et ils n'ont pas les organes non plus des locataires, mais aussi des maires, il y a des positions à prendre, à assumer qui sont importantes.
Je suis bien d'accord avec vous. Ce qui serait bien, c'est de donner aux maires, de leur redonner un pouvoir fiscal réel.
Bien sûr.
Parce que je peux vous dire que la plupart des maires, lorsqu'il y a eu l'arrêt de la taxe d'habitation, ça a quand même sévèrement rué dans les brancards. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la fiscalité, puisque la seule fiscalité qui leur restait encore positive, c'était celle des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, qui, je le rappelle, permettent aux collectivités locales de finir leur budget. On va reprendre, je voulais juste revoir sur la BCE. Vous savez, la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne qui a annoncé quand même une baisse de taux importante. Alors, on vous pose cette question parce qu'elle est quand même significative et on l'a posée à tous les patrons de réseau. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces annonces? Et du coup, est-ce que vous avez, ou pas, chez WeInvest, une statistique, on va dire, une vision de marché pour la rentrée, pour l'été?
Alors, ma vision de marché, elle est simple, je n'ai pas de boule de cristal, je le dis toujours.
D'accord.
Ce que je dis toujours, c'est que la Banque Centrale, elle dit quoi? Elle dit déjà qu'éventuellement, j'en entends parler de 2,50, de 3%. Je pense que déjà, restons sur une base en fin de l'année de 3%. Déjà, si on arrive à ça, ça sera très bien. Mais elle met des conditions, donc je pense qu'il faut être très prudent. La condition essentielle, c'est d'être en dessous des 2% de l'inflation. Aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait, donc déjà, voyons ce qui va se passer. Il y a une prochaine réunion politique monétaire prochainement qui va arriver dans les 15 jours à venir. Je pense que déjà, attendons cette réunion, soyons prudents. Il y a des bons signaux dans la transaction dans l'ancien, c'est une réalité, ça va mieux. Je pense que dans la location, il faut qu'on laisse passer un certain nombre de choses, mais ça va revenir. Voilà. Et je pense que par contre, là, plus que jamais, on a besoin d'aider nos promoteurs.
On va passer, si vous voulez bien, merci Xavier Bellevaux, au marché locatif. Un vrai sujet, le marché locatif, qui subit la plus grave... Alors moi, je vais vous dire, ça fait plus de 35 ans que je suis dans ce métier, je n'ai jamais vu une crise aussi grave d'accès à la location et d'accès au logement. Le paysage est plutôt sombre. On a même des annonces qui ont baissé de plus de 49% sur les moteurs de recherche d'offres de location, avec forcément des bailleurs qui, je le rappelle aussi, bien évidemment, sont aussi matraqués fiscalement, donc du coup, qui hésitent, vous l'avez dit tout à l'heure, même à remettre en location leur appartement, leur bien, sans compter l'incursion massive des locations saisonnières, dites Airbnb, qui a complètement asséché le marché locatif classique. Calendrier énergétique, location meublée touristique font exploser les prix dans les grandes métropoles et chassent les habitants qui, du coup, n'ont plus les moyens, vous le savez, de se loger parce qu'aujourd'hui, à ces prix-là, on ne peut plus se loger. On est quand même sur des variables qui vont de jusqu'à 30, voire jusqu'à 41 euros du mètre carré mensuel dans Paris. C'est juste absolument incroyable. Est-ce qu'on peut encore, Xavier Bellevaux, vraiment respirer un retour à la normale, à la location en France? Et plus largement, bah, que faudrait-il faire?
J'ai envie de dire que par rapport à ça, c'est un vrai sujet. On en a parlé un tout petit peu depuis tout à l'heure. Je pense que tout est quand même lié à la construction de logements. La construction de logements, elle a un intérêt, c'est de faire aussi revenir les investisseurs, de pouvoir aussi proposer des biens à la location. Ça permet aussi de décompresser le marché et de pouvoir proposer plus de biens à la location. Donc, sans construction, sans nouvelle construction, ça va être plus compliqué d'agrandir le parc. Oui, ça, c'est une réalité.
En fait, c'est mécanique.
C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà. Quand
pas,
on a des
pas de
dispositifs...
Pas de production de logement, compression sur l'ancien, mécaniquement, les prix augmentent parce qu'il y a moins d'offres et donc, forcément, les propriétaires... Et quelque part, ça se comprend dans une certaine mesure, augmentent les prix.
Puis c'est non vertueux parce que plus, du coup, moins on décompresse le marché avec des locaux neufs, plus on est obligé de se partir sur les bâtis existants qui souvent sont un note aujourd'hui DPE inférieur à D. Donc on se retrouve avec des choses qui sont E, F ou G. Donc la problématique, on est obligé, on ne peut pas augmenter les prix, on est obligé de refaire des travaux importants. Souvent peut-être le bailleur n'en a pas la possibilité. Donc on se retrouve effectivement, quoi qu'il en soit, avec pas suffisamment d'offres. Alors après j'en parlais, Airbnb c'est autre chose. Je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai état, il y a des choses qui se mettent en place, donc on va le suivre. Mais je pense sincèrement qu'on doit impérativement reconstruire en France. Et il faut qu'on soit vigilant aussi parce qu'on est en train de mettre tout un, avec l'artification des sols, on est en train de mettre en place des systèmes où qu'est-ce qui va se passer ? On va dire aux gens d'aller encore plus loin pour aller construire ou s'installer, mais ça va avoir un double effet, parce que s'ils vont plus loin, ils vont dépenser plus d'énergie, donc ça va coûter plus cher, et l'essence va coûter plus cher, et ils ont moins de budget. Regardez, c'est quand même fou, on est arrivé sur des villes, il y a 15 ans, on disait qu'il faut absolument investir à Saint-Étienne. Aujourd'hui, c'est Saint-Étienne qui a perdu à peu près 15% de pouvoir d'achat, par rapport à l'immobilier qui avait beaucoup augmenté. Quant au fond, ça peut paraître idiot, mais c'est à Paris où on récupère 2 mètres carrés. Voilà. Ouais. Donc du coup, il y a une vraie difficulté par rapport à ça.
Justement, sur cette question des territoires, est-ce qu'on doit voir une différence d'accès pour le locatif entre les grandes métropoles, les villes moyennes ? Est-ce que c'est intéressant, peut-être, quand vous dites d'aller plus loin, c'est de carrément peut-être changer de vie pour certains locataires et se dire « je vais dans une plus petite ville parce que le marché est assez détendu ». Et est-ce que c'est intéressant juste de regarder à l'instant T ou alors est-ce qu'il faut attendre ?
Et je vais même compléter, si vous permettez, mon cher Vincent, c'est on voit que les taux de rendement, et ça c'est vraiment la surprise, sont plus élevés dans ces territoires en moyenne parce que forcément les prix sont moins chers.
Alors, ce n'est pas une grande surprise, parce qu'en réalité, ça a toujours été le cas, mais c'était déjà le cas en immobilier d'entreprise. Souvent, en immobilier d'entreprise, vous vous retrouviez avec des locaux qui avaient une meilleure rentabilité dans des petites villes que dans des grandes villes. On dit toujours qu'en grande ville, vous achetez en définitive quoi ? La sécurité de revendre à un certain prix, qui est souvent le prix d'acquisition. Aujourd'hui, il faut plus de 15 ans pour amortir un bien à Paris. Il faut être cohérent. Donc effectivement, quand on est sur des villes comme Saint-Étienne, par exemple, il nous faut un peu moins de 10 ans, enfin à peu près 10-12 ans. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Au-delà de ça, je pense que en réalité, le télétravail, déjà, a travaillé, a contribué à ces choses-là. On a de plus en plus de gens qui quittent la région parisienne et qui s'installent dans plein d'endroits de la France. Regardez, aujourd'hui, on a des gens qui sont installés à Reims, qui sont descendus en Bourgogne, qui sont descendus dans plein de communes où avant, il n'y avait pas. Même Montauban, qui monte beaucoup. On entend beaucoup parler de Montauban. Ce n'était pas le cas il y a quelques temps. Donc, en réalité, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont décidé, pour un budget moins cher, d'aller récupérer plus de mètres carrés, plus de verdure. Et c'est une réalité. Pour autant, ça ne va pas tout régler. Je pense vraiment qu'il est capital, dans chaque projet, de pouvoir réfléchir à son projet d'investissement global tout au long de sa vie. On peut pas. La pierre, c'est important et c'est essentiel, mais il faut aussi réfléchir à une stratégie d'optimisation tout au long de sa vie active.
Une dernière question pour cet entretien extrêmement riche en informations. La rénovation énergétique est un indispensable levier à la fois pour la valorisation des biens immobiliers, mais à la transition environnementale, bien évidemment. Et on est tous d'accord, on est tous pour la réduction, effectivement, des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, il faut quand même qu'on touche aussi au portefeuille des Français. L'idée, c'est d'allier les deux, à la fois une transformation environnementale, mais aussi une valorisation de son actif immobilier. Et on peut le comprendre. Ça affecte très fort le locatif, on le voit, puisque on a un calendrier contraint. Je rappelle qu'au 1er janvier 2025, les biens en étiquette F seront retirés du marché. Donc, il y avait F et G. L'idée du gouvernement, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2034 pour qu'on soit sur les quatre premières lettres de A, B, C, D, E, bien évidemment, en sachant qu'aujourd'hui, l'idée du parc, c'est d'arriver vers une étiquette énergétique entre B et C, le plus vertueux. Force de constater qu'on n'y sera pas. Comment le marché peut-il se défendre face à ces normes dont on a l'impression qu'a priori, il n'y aura pas de moratoire ou de dérogation possible ?
Ça, c'est un vrai problème. Constituellement, je pense qu'avant tout, dans l'immobilier, je pense que les trois syndicats réunis, qui sont la FNEM aujourd'hui, l'UNIS, j'oublie le dernier, la FNEM, l'UNIS et le SNPI, doivent absolument monter au créneau, doivent défendre la profession. Mais parallèlement à ça aussi, je pense qu'on doit tous faire pression auprès du ministre du Logement. c'est hyper important que le ministre du Logement puisse se rendre compte, et on voit bien qu'il essaye, qu'il a plein de bonnes volontés, mais aujourd'hui, on voit des mesures chocs. Je pense qu'on déjà, on devrait mettre en place des incitations tout de suite pour aider à la rénovation énergétique, ou alors revoir nos standards, déjà standardiser les choses à une certaine note et évoluer au fur et à mesure du temps. Mais dans l'état actuel des choses, effectivement, même les investisseurs aujourd'hui sont moins présents. Alors, parce qu'au début, on l'a vu, quand c'était tout beau, tout nose, on disait les marchands de biens vont arriver, ils vont racheter dans l'état, ils vont faire un peu de travaux. Mais en réalité, depuis le Covid, l'ensemble des matières premières, elle a augmenté. Une maison qui vous coûtait en création pour 100 mètres carrés 180 000 euros, aujourd'hui, elle vous coûte 220 000 euros pour la même maison, alors que les conditions de financement se sont complètement durcies. Donc, je pense que nos pouvoirs publics doivent comprendre qu'en réalité, on ne peut pas tout faire. Voilà. On ne peut pas tout faire.
Merci beaucoup, Xavier Belvaux. On a abordé tous les sujets qui tentent à, justement à vous donner des informations. Alors, elles ne sont pas toujours réjouissantes, soyons clairs. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que plus que jamais, vous êtes d'accord, Xavier Belvaux, on peut toujours acheter et investir dans l'immobilier.
Plus que jamais, et je le conseille vivement.
Merci Xavier Belvaux. Je rappelle que vous êtes directeur général de WeInvest France, filiale d'un groupe belge, leader en Belgique. On se retrouve tout de suite après ça.
Ça vous concerne.
Les amis, on se retrouve pour le 59e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier avec le meilleur agent immobilier de Paris. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est notre ami Dan Adler.
Bonjour, comment ça va?
Comment ça va, Dan?
Nickel.
On est ravis de vous voir. Alors vous, on vous repère très facilement. Juste le charme de l'alliance, de l'élégance et de l'intelligence dans son métier, n'est-ce pas, Vincent?
C'est bien pour ça que vous me regardez aussi quand vous dites ça.
Voilà, t'as très bien. Vous êtes raccord quand même, tous
oui,
les deux.
Oui, au moins, oui. Voilà. Non. Dan Adler, des questions pour vous. Jean-Charles a besoin pour commencer. Il est propriétaire d'une maison, il souhaite acheter plus grand. Il se demande quel est le plus intéressant. Est-ce que c'est acheter avant de vendre ou vendre avant d'acheter?
C'est une très bonne question.
Basique.
Alors, il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Je m'explique très rapidement. Quand vous achetez avant de vendre, vous avez la certitude d'avoir trouvé le produit qui vous convient, mais vous n'avez pas la certitude de savoir à quel prix vous allez vendre votre maison. Et avec un marché, par exemple l'année dernière, où il y a eu des petites fluctuations sur les prix, et notamment des baisses dans certains arrondissements ou en dehors de Paris, ça peut avoir un impact si on ne gère pas parfaitement son budget. L'estimation d'un agent immobilier, c'est primordial, mais des fois, il y a certains agents immobiliers qui peuvent se planter. Et ça peut avoir un impact très important sur l'aspect financier de l'acquisition. Donc ça, c'est quand même un paramètre à prendre en ligne de compte. Maintenant, quand quelqu'un a une grande famille, le fait de vendre avant d'acheter, ça peut être compliqué puisqu'il y a le paramètre de savoir où est-ce qu'on va se loger une fois qu'on a vendu. Par contre, le fait de vendre avant d'acheter, ça a l'avantage de gérer parfaitement son budget puisqu'on sait exactement combien on a touché. Après, la problématique, c'est de savoir ce qu'on va trouver. Donc, ça va dépendre aussi de la zone dans laquelle vous êtes. Si vous recherchez, par exemple, un appartement classique, je prends mon cas puisque moi, mes agences sont à Paris. Si je recherche un appartement classique parisien, 120 mètres carrés ou autre, ou 100 mètres carrés pour une famille ou 150, bon, peu importe, on aura quand même de fortes probabilités de trouver si on n'est pas trop restreint au niveau du secteur géographique. Maintenant, si je recherche un appartement un peu particulier avec une terrasse, avec une vue exceptionnelle, le fait de vendre avant d'acheter, ça peut être dangereux puisque vous allez peut-être pouvoir mettre beaucoup de temps pour trouver l'appartement et il y a la problématique de se reloger. Donc, il faut avoir un plan B. Par contre, l'avantage quand même qui est énorme, c'est que vous gérez parfaitement votre budget, que vous avez déjà touché les fruits de la revente de votre produit, que vous pouvez certainement d'ailleurs acheter sans conditions suspensives, sauf si vous faites un crédit supplémentaire, mais qui sera relativement faible par rapport au montant que vous allez percevoir. Donc, ça a un avantage réel. Et puis, ça dépend aussi du marché. Si vous êtes sur un marché, comme il y a quelques années, qui prend 5 à 10% chaque année, le fait de vendre avant d'acheter, ça peut être dangereux puisque le marché vous rattrape. Et dans un marché qui est stable, voire à la baisse, alors je ne parle pas de baisse aujourd'hui, mais dans un marché stable, voire à la baisse, c'est plutôt avantageux financièrement. Et après, voilà, chacun a ses priorités. Si vous avez un budget qui est très large, je conseillerais plutôt d'acheter avant de vendre. Maintenant, si vous êtes serré, je conseillerais plutôt de vendre avant d'acheter.
Les prix, est-ce qu'ils baissent en ce moment? On l'a vu, les dernières statistiques des 20 arrondissements de Paris ont fait baisser. On est sur une moyenne de 8% de baisse sur Paris. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres par chez vous?
Oui, on a constaté à peu près ça.
Voilà. Vous êtes plutôt sur la rive gauche, hein.
Alors, très honnêtement, aujourd'hui, on a énormément de produits sur la rive droite aussi.
OK, d'accord.
On a notre implantation physique rive gauche, mais on a énormément d'appartements.
Vous avez combien d'agences maintenant?
On a 8.
D'accord. Donc, vous êtes capable de traiter une demande parisienne intramuros?
Ouais, partout.
Full arrondissement, quoi.
Ah, full arrondissement, complètement.
Et donc, cette baisse, est-ce qu'elle vous interpelle? Elle est salutaire pour reloger des Parisiens dans Paris?
Alors, objectivement... On l'a constaté plutôt courant 2023, là, le marché quand même, il est reparti. Alors, il est reparti, on n'est pas tout à fait sur ce qu'on avait avant les crises, etc., en termes de volume de vente. Mais par contre, on a un volume quand même qui est revenu fortement. La baisse des taux d'intérêt nous aide aussi, même si elle reste encore minime par rapport à ce qu'on escomptait. Mais ça impacte le marché. Après, parler de baisse, nous, on a constaté que c'est plutôt les produits à défaut qui ont été impactés directement.
Produits à défaut, c'est par exemple les étiquettes énergétiques, les problématiques de luminosité, sur les produits
d'investissement, on a toutes ces problématiques avec les performances énergétiques qui peuvent directement impacter les produits énergivores, on va dire. On a ça, on a les appartements qui sont... Je parle d'appartements parce que c'est essentiellement ce qu'on a, même si on a quelques maisons. Les appartements qui vont être sombres, en étage élevé, sans ascenseur, dans une copropriété mal entretenue, tous ces paramètres, ça va impacter. Maintenant, on a des produits où, honnêtement, on ne voit pas d'impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos agences, on travaille sur tout type de biens. On a une gamme également prestige qu'on a montée il y a quelques mois. Et là, on constate que sur la gamme prestige, il n'y a pas de baisse. Il y a une forte demande. Et la difficulté, là, c'est peut-être, elle est un peu différente, c'est qu'on a des vendeurs qui sont très gourmands parce qu'ils ne sont jamais pressés de vendre.
Bien sûr. Et puis, comme dirait l'autre, prestige et luxe ne connaissent pas la crise.
C'est vrai.
On va aller à Lyon.
On va à Lyon avec Chloé, qui nous dit qu'elle regarde souvent l'émission et elle se questionne, et c'est une question qu'on ne traite pas souvent dans l'émission, mais qui est importante, sur la possibilité de changer de vie et peut-être pour se lancer dans l'immobilier. Est-ce qu'il faut avoir un quelconque apport, des connaissances? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller si elle veut se lancer, peut-être en tant qu'agent immobilière?
Alors, la question, est-ce qu'elle veut, puisque si elle parle d'apport, c'est est-ce qu'elle veut se lancer, créer son entreprise, ou est-ce qu'elle veut devenir agent immobilier, ce qui est quand même deux choses...
Je pense que, vu la question, c'est un peu les deux, mon capitaine.
Ouais, c'est un peu les deux.
Et c'est peut-être un flou aussi, c'est-à-dire le milieu me tente, comment faire, aller, qu'est-ce que je peux faire en
Elle fait est sollicitée par des réseaux de mandataires dans le digital, où il suffit de s'abonner pour avoir tout de suite la possibilité de vendre, sans très peu de formation d'ailleurs. Monter une agence immobilière, voilà tout. Et c'est vrai que beaucoup de personnes nous contactent parce que l'immobilier fait toujours encore rêver. C'est le cas?
Là, c'est le cas. C'est le cas et ils ont bien raison. C'est un métier qui est incroyable. Moi, j'ai commencé il y a quasiment 20 ans et il n'y a pas un jour où je me suis ennuyé. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas eu une nouveauté ou... C'est un métier qui est palpitant, qui est excitant. Après, c'est vrai que quand on se lance dans ce métier, il faut vraiment être certain de savoir où on va et ce qu'on veut faire. Mmh. Alors, je vais parler et je vais répondre à la place de Chloé, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Elle veut le conseil d'un expert.
Oui, alors il y a deux choses. Si vous voulez devenir agent immobilier, moi, je vous recommande fortement d'aller dans une agence qui a un nom, une renommée, parce que vous allez avoir un appui et vous allez avoir une formation. Et je pense que c'est indispensable. Se lancer dans une aventure en prenant un abonnement, moi, je pense que c'est une grosse connerie parce que c'est un métier qui n'est pas évident. Il y a plein de choses à savoir. Au-delà de ça, vous pouvez effectivement arriver à faire une vente parce que vous allez avoir un ami qui va vous confier son appartement. Et puis voilà, ça va bien se passer. Maintenant, un client mécontent, il va forcément parler de vous négativement. Et si vous n'avez pas de formation, si vous n'avez pas un bagage, un suivi et des gens qui vont vous accompagner, vous risquez de faire plus de déçus que de gens contents et vous ne gagnerez pas votre vie. Parce que effectivement, les commissions, souvent quand on parle de notre métier, on a l'impression que tous les agents immobiliers sont fortunés. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui font ce métier et qui galèrent parce que justement, ils ne sont pas accompagnés. C'est vrai que c'est un métier qui est attirant. Il y a beaucoup d'émissions, il y a des séries. Et du coup, c'est très attrayant, c'est très attirant. Et je le conçois pleinement, mais je pense qu'il faut un accompagnement de A à Z. Et si vous voulez créer votre entreprise, je pense que déjà la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous voulez créer cette entreprise? Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Parce que qui dit création dit aussi risque. Il y a des risques qui sont énormes dans tout type d'entreprise d'ailleurs. Donc oui, il faut un apport. Il faut un apport quand même qui est conséquent. Moi, quand j'ai commencé Quand on a créé le groupe avec mon épouse, on avait à peu près 70 000 à 80 000 euros d'apport qu'on avait constitué d'ailleurs parce qu'on était agent immobilier, on avait réussi à mettre de l'argent de côté. Cet apport, il nous a permis de constituer notre fonds de roulement. Donc, c'est ce qui nous a permis de payer notre loyer, de payer les charges, de payer les salariés, puisqu'on avait commencé, on était tout de suite 5. Mais en gros, ça nous laissait 6 mois pour vivre. Il fallait rentrer de l'argent tout de suite. L'avantage, on connaissait le métier. Donc, on a eu des résultats immédiatement. Quelqu'un qui n'est pas issu de ce milieu-là et qui veut créer une entreprise, c'est tout à fait possible. Mais il faut qu'il soit accompagné. Donc, il faut soit qu'il ait une entreprise qui va lui faire une licence de marque avec... une redevance qui sera payable tous les mois sur le chiffre d'affaires.
Une franchise.
Et l'avantage, quand vous faites ça, c'est que là, vous allez avoir un accompagnement qui va être très fort.
Et le réseau de mandataires, vous en pensez quoi?
Les réseaux de mandataires, objectivement, je trouve que c'est bien pour le réseau, c'est moins bien pour ceux qui s'abonnent en toute franchise, parce que l'accompagnement, il est minime.
C'est important d'avoir une opinion. Disons que vous n'êtes pas chaud, bouillant pour les mandataires, l'immobilier.
Non, vous savez, moi, je vais être franc. Notre marque, aujourd'hui, on est énormément sollicité. On a plein de gens qui souhaitent travailler avec nous. Après, nous, ce qu'on leur dit, c'est que vous venez chez nous, vous allez avoir un accompagnement, vous allez avoir des avantages et vous allez avoir des inconvénients. Les inconvénients, c'est que nous, on va vous traiter vraiment comme quelqu'un de l'entreprise avec des choses à faire.
Parce que vos collaborateurs négociateurs immobiliers ont un statut d'indépendant.
Ils ont un statut d'agent co, effectivement, mais on a des VRP aussi. On a les deux chez nous.
Et la moyenne de rémunération de chiffre d'affaires généré par chacun est supérieure à celle d'un mandataire. Un mandataire fait à peu près grosso modo entre, je crois, 18 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être un peu plus par an. Je crois que la moyenne, c'est 34 000 euros par an.
Ok, nous, on a 238 000 euros hors taxes par an par conseiller, nouveau compris.
D'accord. Okay. Et,
petit zéro en plus.
Et vous leur donnez une commission à
l'entrée. Ils ont 40%.
Non, mais ça
donc, sachant que les meilleurs, on a quand même 3 ou 4 conseillers chaque année qui font entre 350 000 euros hors taxes et 550 000 euros hors taxes. Chaque année, on a un conseiller au minimum qui fait plus de 500 000 euros hors taxes. Après, on a investi beaucoup pour la formation, pour l'accompagnement.
Bien sûr. Et est-ce que de faire là songe à faire de la franchise ou de la licence de marque?
Oui.
C'est prévu pour quand?
On n'a rien annoncé encore. On travaille dessus. On ne veut pas faire n'importe quoi.
D'accord.
Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations. On sait que c'est quelque chose à terme qui peut également nous rapporter. Maintenant, on n'est pas encore prêt, donc on travaille dessus, mais c'est quelque chose qui nous plaît.
Il faut une bonne radio pour ça. On est d'accord là-dessus. Ouais. Merci, Dan Adler.
Merci beaucoup. Deferla.com.
Qu'on retrouve sur Deferla.com.
Voilà, exactement.
Pour la Paris intramuros, rive droite et rive gauche, puisque maintenant, Deferla, c'est le terrain de jeu sur l'ensemble de Grand Paris, naturellement. Et aussi un peu la banlieue, je crois, la première.
Ouais, on fait Boulogne, on fait Neuilly, on fait Montrouge, on fait... Partout où il y a des ventes, on y va.
Voilà, on se retrouve tout de suite après ça, justement, pour ce 59e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après la pub.
Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier.
Eh bien voilà, c'est la fin de ce 59e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On est très heureux de vous avoir accompagné encore une fois au mois de mai sur vos parcours résidentiels, d'avoir répondu, on l'espère, à toutes vos questions chaque mois. D'ailleurs, avec l'ami Vincent, nous répondons à vos questions sur le club Facebook des proprios, mais aussi sur l'application de Radio Immo et sur tous les supports d'écoute. Vous nous écrivez directement, vous avez un souci, une réponse, ou même une question, ou même un coup de gueule, une opinion, vous n'hésitez pas à nous la communiquer. On retrouvera les experts comme chaque mois, ça vous concerne, experts comptables par exemple, notaires, avocats, répondent à toutes vos questions. Un grand merci aux équipes de Capital. Je rappelle, tout à l'heure, je vous l'ai annoncé en préambule, que notre ami Guillaume Chazelière est allé vers d'autres horizons éditoriaux. On lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite également. Et on va se retrouver avec les équipes de Radio Immo de Capital le vendredi. Non, on ne sera pas le 15 juin, on sera plutôt le 21 juin.
21 juin.
À 18h. Voilà, je parle sous le contrôle de l'ami Vincent. D'ici là, toutes et tous, prenez bien soin de vous.
Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur Radio Immo et capital.fr.